10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. À suivre dans 10 minutes, Priorité Santé avec Caroline Paré. Mais d'abord, toute l'info. Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. La COP de Bakou a ouvert ses portes. Un 29e sommet sur le climat qui débute alors que le Pakistan suffoque. Pollution et pratiques agricoles plongent la province du Pendjab dans un dangereux brouillard. L'Ukraine à nouveau intensément bombardée. Des frappes russes ont fait 8 morts cette nuit dans le sud du pays. Nous serons à Kiev dans cette édition. Olaf Scholz se dit prêt à demander la confiance du Parlement avant la fin de l'année. Un vote que le chancelier allemand devrait perdre suite à l'implosion de sa coalition. Des législatives anticipées pourraient donc se tenir prochainement. Et puis en RDC, la contre-attaque du camp présidentiel. Les proches du président Félix Tshisekedi montent au créneau pour défendre sa proposition de révision constitutionnelle. Un projet attaqué de toutes parts par les oppositions et la société civile. La COP 29, un moment de vérité pour une planète sur le chemin de la ruine. Les mots du président azerbaïdjanais à l'ouverture du sommet pour le climat ce lundi. 50 000 participants venus de 198 pays sont attendus à Bakou pour une 29e édition qui devrait laisser une large place au débat sur le financement de la transition énergétique. Des États qui souffrent déjà des conséquences de la pollution à outrance. Exemple au Pakistan où la province du Pendjab est noyée depuis une semaine par un brouillard pollué appelé smog. École primaire, espace publics et monuments historiques sont fermés en raison d'une très mauvaise qualité de l'air. Reportage à Lahore de Sonia Ghezali.
Lahore est plongée dans un épais brouillard. Après quelques minutes à l'extérieur, le nez commence à être irrité, les yeux piquent. Les hôpitaux ont vu le nombre de patients ayant des difficultés respiratoires grimper en flèche depuis le début du smog. Ils sont 100% de plus ce mois-ci à l'hôpital Shalimar. Farharoun Nissa, âgée d'une trentaine d'années, est secouée de crises de toux.
J'ai des difficultés à respirer depuis que le smog a commencé, j'éternue beaucoup. Je passe la plupart du temps dans ma chambre, je ne vais même pas dans la cour parce que ça me coupe la respiration. Maintenant, je songe à partir de Lahore et à retourner dans mon village car c'est devenu très difficile de vivre ici pour moi.
Ce jour-là, l'indice de qualité de l'air est à plus de 1000. L'air est considéré comme dangereux à partir de 300. Le docteur Tahawakas, pneumologue, ne cache pas sa vive inquiétude. Selon lui, personne ne devrait sortir de chez soi.
L'indice de qualité de l'air actuel est dangereux, il est toxique. Il équivaut à l'inhalation de plus de 40 cigarettes par jour.
Et la situation s'aggrave d'année en année. En cause, la pratique du brûlis agricole répandue dans le Pendjab, mais aussi la pollution automobile et industrielle piégée dans le brouillard, particulièrement en saison hivernale. Sonia Ghezali, de retour de Lahore, Islamabad, RFI.
Et à noter que de nombreux chefs d'État et de gouvernement ne feront pas le déplacement en Azerbaïdjan à l'occasion de cette COP. Joe Biden, Xi Jinping ou Vladimir Poutine ont déjà annoncé qu'ils ne seraient pas présents. Le président russe qui s'est entretenu avec le président américain élu, appel téléphonique 2 jours après l'élection de Donald Trump, selon des informations du Washington Post. Le républicain aurait appelé Moscou à ne pas intensifier ses opérations en Ukraine avant la passation de pouvoir à Washington. Message pas vraiment reçu à en croire les nouvelles frappes qui se sont abattues la nuit dernière sur le sud de l'Ukraine. Au moins 8 personnes ont été tuées, des dizaines blessées à Mykolaïv et Zaporijja. Alors quelle est la stratégie russe derrière ces nouveaux bombardements? Élément de réponse depuis Kiev avec Emmanuel Chaz.
Les frappes russes contre les infrastructures ukrainiennes sont quotidiennes, en plus d'endommager par exemple les sources d'énergie pour priver les Ukrainiens d'électricité notamment. La Russie vise aussi des hôpitaux, des immeubles résidentiels dans un but de subjugation des Ukrainiens en rendant leur ville tout simplement invivable, comme on le voit avec les frappes contre Zaporijja et Mykolaïv la nuit dernière. La ville de Zaporijja, 700 000 habitants avant-guerre, a de nouveau été touchée par une bombe planante cette nuit qui a fait des dizaines de blessés et au moins un mort, le tout dans une région partiellement occupée par les Russes et qui a été bombardée plus de 350 fois pour la seule journée de dimanche. Ces frappes ne sont pas nouvelles, mais elles se sont multipliées ces dernières semaines, surtout avec des drones qui ont aussi pour but d'épuiser la défense antiaérienne ukrainienne en prévision de futures frappes de missiles qui, eux, sont plus dévastateurs et plus difficiles à intercepter. Et on voit également la Russie utiliser de plus en plus des bombes planantes, peu coûteuses et à très forte charge explosive. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Kiev annonce ce matin que les forces de Moscou tentent d'avancer dans la région russe de Koursk, une zone dans laquelle l'Ukraine mène une incursion depuis le mois d'août et où des milliers de soldats nord-coréens auraient été déployés. À noter que l'administration Biden a assuré hier qu'elle dépenserait bien les 6 milliards de dollars restants sur l'enveloppe dédiée à l'Ukraine, et ce avant la transition avec les équipes de Donald Trump. Le président élu qui avance sur ses premières nominations, c'est Tom Homan qui a été choisi par le républicain pour prendre la tête de l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration aux États-Unis, un poste qu'il avait déjà occupé lors du premier mandat de Donald Trump. Il s'était alors illustré par une loi séparant près de 4000 enfants de migrants de leurs parents. Autre nomination aujourd'hui, celle d'Elise Stefanik comme ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. La députée de New York se dit honorée. Le premier ministre japonais a lui sauvé son poste. Shigeru Ishiba a obtenu ce matin la confiance du Parlement malgré sa défaite aux élections législatives d'octobre. En l'absence de majorité absolue, il devra composer avec des oppositions qui ont d'ores et déjà refusé la formation d'un exécutif de coalition. Autre dirigeant dans une position précaire, le chancelier allemand Olaf Scholz, le socialiste sur un siège éjectable après l'implosion de sa coalition suite au limogeage de son ministre des Finances mercredi dernier. L'opposition appelle désormais à des élections anticipées dès janvier. Lui, il les voulait en mars. Interrogé hier soir à la télévision, le chancelier, qui est le seul à pouvoir lancer les élections, s'est dit ouvert à un calendrier rapproché. On l'écoute.
Que je pose la question de confiance avant Noël, si tout le monde voit les choses comme ça, ça n'est pas du tout un problème pour moi. Alors nous allons réfléchir à la meilleure solution pour les citoyens, pour les partis représentés au Bundestag, qui vont être en compétition les uns avec les autres. Ce sont toutes sortes de choses auxquelles nous devons faire attention. Moi, en tout cas, je suis d'accord si ça se passe ainsi, car je veux aussi que ça aille vite. Je veux obtenir un nouveau mandat des électrices et des électeurs par le biais d'un vote fort pour le SPD.
Olaf Scholz. Le Premier ministre britannique est à Paris aujourd'hui. Keir Starmer, l'invité d'honneur de la France pour la cérémonie de l'armistice de la guerre 14-18, alors que l'on célèbre les 120 ans de l'entente cordiale, l'amitié franco-britannique est à l'honneur. Pour autant, les relations entre le gouvernement travailliste au pouvoir depuis 4 mois et Paris, mais aussi l'Europe, sont pour le moins compliquées. Le point avec notre correspondant au Royaume-Uni, Thomas Harms.
Keir Starmer veut mettre en avant une approche constructive et tourner la page des anciennes relations avec l'Europe. Le Premier ministre britannique veut un changement de ton des Européens, mais de son côté, Bruxelles attend tout simplement de savoir ce que Londres veut de l'UE. Starmer a bien rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais seulement 3 mois après être entré au 10 Downing Street, et rien de concret n'était sorti de cette réunion. Et depuis juillet, le Premier ministre n'a pas non plus nommé les 30 députés britanniques qui doivent faire partie de l'organe interparlementaire Grande-Bretagne et Union européenne. Un partenariat qui sommeille depuis 4 mois, alors qu'il est censé veiller aux bonnes relations et à la coopération post-Brexit. Et au niveau des négociations aussi, rien n'avance. Alors avant de parler sécurité extérieure, relations économiques ou encore de l'aide à l'Ukraine, l'éclaircissement de la position britannique se fait urgente, d'autant plus urgente avec l'élection de Donald Trump à la présidence américaine et un front commun, rappel de nombreux élus britanniques de ce côté de l'Atlantique, est essentiel. Thomas Harms, Aberdeen, RFI.
RFI, il est 10h08 à Kinshasa, la RDC, où la proposition de révision constitutionnelle de Félix Tshisekedi continue de provoquer de vifs débats. Le président soupçonné par les défenseurs du texte de 2006 de vouloir tenter de briguer un troisième mandat. Après un appel lancé par des opposants et des membres de la société civile à refuser cette modification, le camp au pouvoir réagit. Ce matin, le porte-parole de la coalition, l'Union sacrée de la nation, estime que ce projet de révision est démocratique. Thierry Monswempo-West au micro RFI de Pascal Moulégois.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a d'ailleurs souligné avec insistance. Seul le peuple est souverain et c'est à lui que revient la décision finale. Cette démarche de révision n'est en rien un déni de démocratie. Bien au contraire, c'est une manière d'émanciper notre constitution pour mieux répondre aux défis actuels du pays. Qui sont ces individus pour s'opposer à un processus aussi démocratique? Ne s'agit-il pas, au fond, d'un groupe de pseudo-intellectuels qui se drapent du manteau de la démocratie tout en refusant au peuple le droit de s'exprimer librement? Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que certains parmi eux, par le passé, ont eux-mêmes plaidé pour une révision de cette même constitution. Leur revirement actuel démontre que leur position est loin d'être objective. Au contraire, elle est empreinte d'opportunisme, ce qui fausse totalement le débat. Au final, il est clair que leur position n'est pas motivée par une volonté de protéger les intérêts du peuple, mais par des calculs politiques égoïstes. Laissons le peuple décider décider de l'avenir de notre constitution. Car c'est cela, la véritable démocratie.
Il est presque 9h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal, mais vos programmes continuent sur la Radio du Monde.